5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Eh bien, bonjour à tous. Dans notre dernière émission, nous avions parlé effectivement des bases de lancement. On a bien compris, pour ceux qui ont, pour nos fidèles auditeurs, on a bien compris que les bases de lancement, il y en a quelques-unes sur la planète. Elles sont plutôt près de l'équateur, plutôt près du littoral ou des déserts, en tous les cas loin des villes et des hommes, et qu'il y en a une particulièrement qui nous plaît beaucoup, c'est la base de Kourou, c'est le centre spatial guyanais de Kourou.
Le CSG.
Voilà.
Donc avec ce CSG, nous allons faire un petit tour en Guyane.
Voilà. Alors, un petit peu d'histoire peut-être, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'il y a eu notamment en France avant Kourou, en termes de base de lancement et de conquête spatiale.
Allez,
rapidement,
donc,
on a eu l'occasion d'en
un
parler.
Un petit peu d'histoire, donc on se souvient du Sputnik lancé le 4 octobre 1957 par la Russie, premier satellite. Ensuite, les Américains vont répondre rapidement. Et donc nous, la France, on va attendre 1965, 26 novembre, pour lancer donc notre premier satellite Astérix.
Astérix.
Donc nous, la France, à l'époque, avait à Maghir, donc dans le désert sud-algérien, cette base, puisque l'Algérie était possession française. Mais donc après les accords d'Évian en 1962, il a fallu déménager d'Amaghir. Alors, aller où ? Donc on avait la Guyane, à Kourou, site idéalement placé, donc, et c'est là que s'est construite la base, la première base, avec le Centre National d'Études Français, donc Centre National d'Études Spatiales, le CNES.
Voilà, donc on était franco-français à Kourou à l'époque,
au départ. Voilà. Puisqu'on a lancé les fusées Diamant qui ont lancé plusieurs satellites donc de Kourou.
Et très vite après, donc la question européenne s'est imposée.
La construction de l'Europe arrive, tout seul c'est bien, mais à plusieurs, c'est beaucoup mieux.
Et on va plus
surtout,
loin.
Et surtout financièrement. Donc, avec un projet dans les cartons, projet Europa, donc de fusée, coopération entre plusieurs pays, et qui va déboucher sur le projet Ariane.
Alors, ce CSG, ce Centre Spatial Guyanais, c'est déjà un espace immense.
Alors, ce sont une quinzaine de kilomètres au nord de Kourou, donc avec un premier donc site de lancement pour les fusées Diamant, puis Ariane 1. Donc la fusée Ariane 1 donc, qui a été lancée avec succès, donc après des études, le 24 décembre 1979. Donc c'était un beau cadeau de Noël.
Un beau cadeau de Noël, oui.
Voilà.
Et donc en fait, sur cette base-là, puisqu'on va s'intéresser un petit peu pour nos auditeurs, décrire effectivement ce que l'on en trouve sur cette base de lancement, on peut rappeler effectivement que les lanceurs, les fusées européennes aujourd'hui, elles sont fabriquées ailleurs qu'à Kourou.
Tout à fait.
Toutes.
Oui.
Pratiquement.
Oui, oui.
Bon.
Donc, notre gros constructeur, c'est EADS, aujourd'hui Airbus Space and Defense.
Voilà. Okay. Et donc ça, c'est des constructions qui se font soit par pièces détachées dans les différents pays européens concernés.
Alors, on construit à Toulouse, on construit du côté de la Côte d'Azur, donc sur Thales Alenia. On construit en Italie, on construit un peu partout, on va dire en Europe, on construit en Allemagne, suivant ce qu'on veut faire comme lanceur, puisque on va dire que l'Europe a deux lanceurs, Ariane et Vega aujourd'hui. On parlera d'Ariane 6
à venir.
Donc c'est deux lanceurs Ariane 5 aujourd'hui et Vega, donc qui nous permettent de lancer en autonomie la plupart des satellites, de petites charges aux plus grosses charges. Donc sont conçus dans les labos, je veux dire par des ingénieurs français et européens, et donc
construits
aussi en Europe. Alors donc, après, il y a de la sous-traitance
voilà,
aussi.
Mais en tout cas, il y a de l'emploi en Europe, d'un emploi significatif autour effectivement de la construction des lanceurs
et
de l'aérospatial.
Énormément de demandes. Le spatial, on dit il coûte cher, le spatial, mais quand on en a les retombées qu'on voit au quotidien, le nombre d'emplois que ça génère, donc c'est énorme. C'est un tout.
Alors, ces pièces sont construites ici ou là en Europe. Elles arrivent comment à Kourou ?
Eh bien, effectivement, il faut leur faire traverser la mer. Donc, on utilise souvent des avions gros porteurs, comme le plus gros porteur, c'est l'Antonov russe, qui est donc un avion. On va le charger, il va arriver à Kourou, on va le décharger.
Voilà. les pièces construites, enfin les éléments, appelons ça comme ça, certains sont très volumineux.
Alors, on a aussi, on a deux bateaux qui sont répertoriés, oui. qu'on appelle le MN Toucan et le MN Colibri, qui vont partir des ports européens, d'Allemagne, du Danemark, un peu partout, de France aussi, et donc qui vont faire le voyage jusqu'à Kourou.
Donc Kourou, c'est aussi un port.
Il y a un port à Kourou.
Bateaux arrivent et déchargent.
Quand on regarde les images d'un lancement, comment ça a été préparé, on voit souvent ces deux bateaux qui sont là, les MN, donc Toucan et Colibri, qui sont là au port. On va décharger. Donc on va décharger pièce par pièce et puis alors après, il va falloir assembler.
Alors, il y a donc un site d'assemblage. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de monde là, sur place. Là aussi, de l'emploi, très certainement. Et puis des bâtiments. Parce que...
Sur Kourou, c'est 1600 personnes.
1600 personnes qui travaillent.
Tout confondu qui travaillent. Voilà. Site,
Bon, sur l'assemblage, donc effectivement, c'est un travail minutieux, souvent, à l'écart de toute poussière, etc.
Alors, le lanceur lui-même, il peut y avoir un peu de poussière parce que comme c'est vide, qu'il n'y a pas de carburant pour l'instant, on va assembler les différents tubes les uns avec les autres. Donc, il y a quelque chose, je ne sais plus si c'est 247 ou 340 et quelques boulons explosifs entre le premier et le deuxième étage. Donc, ces boulons explosifs qui vont exploser et qui vont séparer le corps de la fusée au moment du décollage.
D'accord.
Donc, tout ça s'est assemblé sur place. Bon, beaucoup de main-d'œuvre. Là, il faut des mécaniciens.
Alors, il y a l'assemblage. On parle d'abord de l'assemblage du lanceur, de la fusée.
Lanceur.
Mais il y a aussi l'assemblage de l'objet à lancer. Alors, ils arrivent tout conditionnés, ces petits satellites, ou bien ils...
Alors, en général, les petits ou les gros satellites ont subi les tests sur le lieu de fabrication. Alors, là, on subit des tests au froid, au chaud, à la vibration. Vérifier toutes les connexions électriques parce que il faut que tout soit bien branché au moment de lancer. Il faut pas qu'on s'aperçoive qu'au moment que c'est parti, qu'on a oublié de raccorder un fil.
On est dans le vide.
Ça a été sollicité au vide. Il y a des chambres de test au froid. On descend à des températures très basses, on monte à des températures très hautes. La vibration. Donc une fois que c'est ça, on emballe le satellite qu'on veut lancer vraiment bien protégé. Il est dans sa boîte. Il est transporté à Kourou et là il va être dans une salle blanche, ce qu'on appelle salle blanche, que c'est une salle d'opération. Lorsqu'on voit les gens qui travaillent là-dedans avec des combinaisons, des gants, pas de poussière là.
Alors, donc en fait, notre lanceur, il est assemblé, donc il est prêt à fonctionner, on va
il
dire.
Il n'est pas fonctionné, il n'est pas rempli encore.
Il n'est pas rempli
de carburant.
Mais est-ce qu'il... Alors, on va devoir le transporter. Vous allez nous expliquer comment s'effectue ce transport. Est-ce que le satellite va être transporté en même temps que le lanceur?
Oui. Donc là, il est ce qu'on appelle dans le BAF, le bâtiment d'assemblage final. Donc dans ce bâtiment d'assemblage final, c'est des tours qui sont très très hautes, puisque Ariane fait 54 mètres. Donc vous voyez...
Donc, avant de le transporter sur le pas de tir, on va écouter un petit peu de musique sidérale. Bien Jean-Michel, nous sommes à Kourou, sur le centre spatial guyanais de Kourou. On vient de voir comment sont construites les fusées, souvent en Europe, en ce qui nous concerne. Elles viennent par bateau, par avion. Elles sont assemblées sur cette base de lancement de Kourou. Le contenant est dans le contenu, le contenu est dans le contenant. Comment on va transporter tout ça sur le pas de tir qui est, comme vous nous l'avez dit, à quelques kilomètres?
Voilà. Donc je ne me souviens plus de la distance exacte, mais enfin peu importe. Donc,
c'est de l'ordre de plusieurs
2 à 3 kilomètres. Voilà. On va donc intégrer le satellite ou les satellites, parce qu'Ariane peut des fois lancer 2 satellites. Ils vont être intégrés dans la coiffe, donc dans le bâtiment d'assemblage final. On ferme la coiffe, une fois que tout est bien vérifié, tout est bien fait, préparé, on ouvre les portes. Et là, c'est sur rail qu'on va transporter le lanceur sur son pas de tir.
Alors, qu'on le comprenne bien, ce lanceur, il est horizontal
non,
sur le train.
Non, il est vertical. Déjà vertical en position. Voilà, donc bien boulonné, bien... voilà, donc... Et là, on l'amène doucement sur son pas de tir.
D'accord. Bon, ça, la vitesse proche de zéro, pas trop de
secousses. Pas de vibration, doucement, surveillé, suivi. Voilà.
D'accord. Hein. Et donc, on prend le temps qu'il faut et on arrive sur le pas de tir. Donc, sur ce pas de tir, on va l'installer, donc toujours en position verticale.
Donc, nous sommes sur la tour de lancement.
Sur la tour de lancement. Alors, cette tour de lancement, on va trouver des équipements pour maintenir ce lanceur en position verticale. On va trouver également tout un tas d'appareillages pour l'alimenter en différents carburants. Et puis, il va y avoir un certain nombre de structures prévues pour le décollage, pour les fumées, les gaz, etc.
Commençons
par le début.
Alors, lorsqu'il arrive sur son pas de tir, il est installé. Donc, on a prévu que la météo serait bonne. Hein, ça, c'est un facteur très, très important. Comme disent les techniciens, tous les paramètres sont nominaux.
Nominaux.
Hein, c'est le terme. Voilà. Donc, on va procéder au remplissage des carburants.
Alors, c'est quoi comme carburant?
Alors, les deux propulseurs, les boosters, les EAP, hein, des étages d'accélération à poudre d'Ariane 5, par exemple, ce sont du carburant solide. Hein, on dit de la poudre, mais en fait c'est pas de la poudre, c'est quelque chose de très toxique d'ailleurs. Hein, on dirait de la gomme, hein, de la gomme arabique, un peu, vous voyez, ça a cette consistance-là.
Donc c'est pas une pompe ordinaire.
Non.
Et ils sont stockés sur place. Est-ce qu'ils sont conditionnés sur place? Est-ce qu'ils sont fabriqués sur place?
Alors les boosters sont pas.
Non, je parle de carburant.
Le carburant c'est sur place. Hein, on peut donner son nom, c'est l'Air Liquide, hein, une grosse entreprise donc qui travaille. Donc il y a quand même une cinquantaine d'entreprises qui travaillent sur le site de Kourou.
Hein, voilà. Sur la question d'énergie.
Question énergie, fabrication, maintenance. On pourrait donner tous les noms. Hein, donc, je recherche là si j'ai quelques notes. Donc, toutes les entreprises, donc EADS, qui fabriquent les éléments. Il y a une quarantaine d'industriels européens, des entreprises de Guyane aussi sont associées aux opérations.
D'accord. Donc, cette question du carburant est bien entendu proche de la sécurité, parce que je pense qu'il doit y avoir de gros risques, peut-être de pollution également aussi, et en tout cas d'accident. Donc là, on est sur le pas de tir, la fusée est dressée, on prépare le tir, on attend effectivement un certain nombre d'indicateurs, enfin de feux verts, qui doivent être nominaux, comme vous dites. Quels sont les gens qui travaillent sur cette partie, j'allais dire, à terre? La fusée n'a pas décollé, on a une équipe dédiée à ça.
Il y a toute une équipe qui est à terre, donc à tous les étages, on va dire. Hein, c'est la ruche à tous les étages. Donc chacun a son poste de travail, de tout vérifier, de brancher aussi tous les capteurs qui vont permettre de suivre informatiquement la vie du lanceur, donc avant qu'il parte, hein, voir si tout va bien. Donc, et puis on procède au remplissage des réservoirs.
D'accord.
Alors ça, c'est vraiment on est dans les dernières heures avant le lancement.
Voilà. Ouais. La météo est favorable.
Est favorable.
Et on entend le fameux 5, 4, 3, 2, 1.
De notre générique, allumage Vulcain.
Voilà, allumage Vulcain.
Moins 7 secondes.
Alors, qui énonce effectivement ce décomptage du temps?
On considère que tous les employés qui ont fait leur travail sur le pas de tir ont évacué le pas de tir.
Oui. Hein,
nous sommes à quelques heures, on va dire quelques minutes du lancement. On va se replier dans une salle souterraine, aussi un peu éloignée du pas de tir. Donc, on appelle ça la salle Jupiter à Kourou. Et là vont être là tous les techniciens, les ingénieurs, sous les ordres du DDO.
Alors le DDO, c'est
directeur des opérations.
Voilà, c'est l'équipe qui va prendre en charge le lanceur à partir pas du zéro, mais
du moins 7. Hein.
Voilà.
Parce que jusqu'à moins 7, on peut tout arrêter.
Oui, d'accord.
Moins 7, on allume le Vulcain. Voilà. Et si on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, c'est trop tard.
Hein. Donc on a une équipe, soyons très clairs, il y a une équipe au sol, enfin tout un tas de métiers qui au sol construisent, assemblent, amènent, dressent, préparent. Et puis après, il y a une autre équipe qui va être mobilisée sur la question du vol et du décollage et de la mise sur orbite.
Voilà.
Donc ce sont des endroits. Est-ce que géographiquement, ils sont des endroits différents. Est-ce qu'ils sont loin de la fusée à ce moment-là?
Alors, ils sont dans cette salle Jupiter. Il y a énormément
elle,
dans
elle
cette
est loin, salle. Cette salle Jupiter, par rapport du pas de tir?
Alors, en distance, je ne sais pas. Elle est un petit peu loin quand même. Oui, que, voilà, elle n'est pas à proximité du pas de tir. Voilà. Mais bon, là, on est sûr que tout est câblé informatiquement, que tous les paramètres de la fusée sont nominaux, comme on l'a dit. Hein. Donc, il y a du rouge et du vert. Alors, je vous invite à suivre un décollage d'Ariane, parce qu'on peut très bien le voir de sur son ordinateur de la maison, sur
alors,
le site d'Ariane Espace.
Comment fait-on, Jean-Michel? Prenons le temps de bien expliquer ça. Je veux regarder un décollage ce soir.
Ce soir, vous n'en avez pas.
Non, mais...
Alors, vous allez en avoir en mars, là, le prochain tir d'Ariane 5.
Est-ce
alors...
qu'il y en a que l'on peut voir, des anciens lancements qu'on peut revoir?
Tout à fait. Oui, vous allez sur le site d'Ariane Espace, hein, donc il n'y a aucun souci. Sur le site de l'ESA aussi, donc vous allez retrouver les lancements, tous les derniers vols. Et donc, c'est très intéressant de voir cette préparation. Parce qu'il m'est arrivé de suivre un lancement complet, des fois, Ariane Espace, du CSG, Centre Spatial Guyanais, communique longuement. Il y a des explications, on vous explique tout. Tout d'un coup, vous avez en haut à gauche de votre écran d'ordinateur des petits carrés verts. Pouf, il y en a un qui se met en rouge. Hein. Alors, on arrête les décomptes finales. Ouais, parce que nous sommes, par exemple, à 2-3 heures du décompte final. Hop, un truc en rouge, on vérifie tout. On reparamètre, alors vous voyez que les gens sont sur leur ordinateur au travail, et tout d'un coup tout passe au vert, on reprend le décompte final jusqu'à ces fameuses moins 7 secondes.
Voilà, eh bien, écoutez, vous qui nous écoutez, si vous avez envie d'en savoir plus et surtout de vivre cette émotion du décollage, une seule adresse, lancement Ariane Espace.
Ariane, sur le site de l'ESA, voilà.
Alors, Jean-Michel, on vient maintenant sur peut-être, on parle toujours bien entendu du CSG, du Centre Spatial Guyanais de Kourou. Aujourd'hui, c'est un centre qui a beaucoup fonctionné. On en est à combien de lancements? Combien de lancements y a-t-il eu?
Alors, on va faire un peu la saga Ariane, hein, puisque la première Ariane, le 24 décembre 1979, il y a eu Ariane 2 en 86, Ariane 3, Ariane 4, et puis aujourd'hui, nous sommes Ariane 5 dans sa version lourde. Hein.
Donc, au total, donc, sur Ariane, on dépasse
plus de 200 lancements. Je crois qu'il y avait Ariane 5, c'était 228 le dernier. Là, voilà.
Il y a eu de gros échecs sur Ariane?
Il y a eu des échecs. Hein,
est-ce qu'il y a eu des accidents graves, dramatiques? Non.
Pas à ma connaissance.
Voilà. Hein. Par contre, il y a eu des mises sur orbite qui ont été un petit peu...
Oui,
très peu.
Il y a eu des échecs, surtout sur Ariane 4, on dirait. Je crois que c'est celle qui totalise le plus d'échecs. Hein. Mmh. Autrement, bon, Ariane 5 est vraiment fiable. Et puis, venir aujourd'hui, comme on vérifie tous les paramètres avant un lancement, lorsqu'on appuie sur le bouton au décompte final, on est vraiment sûr à 100%.
On a le sentiment que le lancement, maintenant, c'est comment prendre le métro. On banalise un petit peu quand même cette performance technologique. À chaque fois, c'est quand même quelque chose de...
On banalise, mais bon, je me souviens de certains lancements avoir suivi, comme je vous le disais, sur Internet, qu'à un moment, à 10-12 secondes, tout est arrêté, puis le tir est reporté de quelques jours parfois. Hein. C'est lui arrivé. Hein. Ouais. Pas forcément à cause de la météo, mais une défaillance de connexion, de choses. Alors là, ben, ça demande un travail énorme parce que toutes les équipes se mettent au travail, tout revérifier, hein, on retourne sur le pas de tir éventuellement.
Donc on en est à Ariane 5, Ariane 6, le budget a été voté il y a quelques mois, donc oui. On devrait avoir une Ariane 6. C'est une course à la puissance ou bien c'est autre chose qui se...
C'est différent. Personnellement, bon, moi je suis pas spécialiste hein, des lanceurs, de ça, je suis l'activité spatiale en tant qu'amateur et pour le plaisir. Il me semble qu'Ariane 5 était quand même vraiment très performante. Moi, je la regretterais un petit peu si on passait qu'à 6.
Nostalgie, donc, nostalgie.
C'est pour concurrencer un peu le marché international. C'est de la concurrence financière. Là.
D'accord. J'ai cru comprendre que ce n'était pas une fusée beaucoup plus imposante que,
non,
qu'Ariane 5.
Non, il faut lancer plus vite, plus rapide et moins cher.
D'ailleurs, lancer plus vite, ça suppose aussi que nos pas de tir, que nos bases de lancement soient équipées de plusieurs pas de tir.
Alors, tout à fait. Puisqu'on a la saga Ariane, si vous voulez, dans toutes ses versions, a fait décaler des pas de tir sur Kourou. Donc, on a aussi construit le petit pas de tir à Kourou Vega. Hein. Donc, cette petite fusée italienne que les Italiens avaient longtemps dans leur carton, dont on a pris un des boosters d'Ariane qu'on a reconditionné en fusée, donc Vega, qui lance des petites charges, justement, pour être moins cher, plus rapide. Mais bien sûr, on ne peut pas aller non plus très très loin avec ce lanceur.
Donc, Kourou peut lancer Ariane, bien sûr. Soyouz.
Ariane Vega. Alors, Soyouz.
Oui.
Soyouz, ils ne sont pas à Kourou. Ils sont au nord de Kourou. On a construit une base exactement à Sinnamary. Hein, il fallait dissocier un peu ce qui était européen, on va dire, et ce qui ne l'était pas. Donc, ce sont des accords avec les Russes, dans le cadre des accords Startem. Hein, ça date de vieux, tout ça, la coopération avec les Russes. Alors, elle est intéressante, cette coopération avec les Russes, parce qu'elle a été initiée en 1966 par le général de Gaulle. Général de Gaulle, donc, qui avait créé le CNES, qui avait lancé un petit peu l'Europe spatiale et qui tenait à avoir un peu son indépendance par rapport aux deux grandes puissances, ce qui ne faisait pas plaisir aux Américains. Mais d'ailleurs, ça a été le premier occidental à visiter Baïkonour.
Sur Kourou, on lance c'est le départ de beaucoup de lanceurs européens. Est-ce qu'il n'y a que des lancements européens ou est-ce qu'il y a d'autres clients qui viennent utiliser
C'est une société, Ariane Espace, c'est une société donc, qui lance pour tout le monde.
Oui, mais je parle de la base de lancement. Est-ce que si je suis monsieur, si j'ai ma fusée, je veux la lancer à Kourou?
Pas de tir Ariane et Vega, c'est l'espace spatial européen.
Dédié à ces deux.
Dédié à ces lanceurs. Et puis au nord, Sinnamary, qui lance des Soyouz.
Qui lance des Soyouz.
Mais que des Soyouz avec des charges. Il n'y a pas d'êtres humains qui sont lancés de Sinnamary. Hein. Voilà.
Bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce centre spatial guyanais de Kourou. Il y a énormément à dire. On pourrait passer beaucoup plus de temps pour présenter en détail.
Oui, je veux juste dire un petit mot. C'est lorsqu'on lance de Kourou, on va très vite perdre le contact avec la fusée parce qu'elle part vers l'est.
Et oui.
Donc on va très rapidement, donc il y a les îles d'Ascension qui vont prendre le contrôle, et puis Libreville au Gabon aussi, voilà. Il y a donc des stations au sol qui vont prendre le contrôle.
Ça c'est le suivi,
d'un lancement.
Une fois le décollage. Aujourd'hui on s'est arrêté à l'Humage Vulcain.
Oui, voilà, hein. Mais je vous invite vraiment à découvrir un lancement, parce que c'est très intéressant.
Alors on profite des quelques minutes qui nous restent pour évoquer quand même quelques livres, vous en avez amené quelques-uns. Sur la conquête spatiale et notamment sur les bases de lancement et de Kourou.
Alors sur ces deux émissions qu'on a fait sur les pas de tir et sur Kourou, il y a vraiment un livre qui est un petit peu ancien, hein, je veux dire, mais qui est toujours d'actualité, c'est l'Atlas de géographie de l'espace. Hein, c'est un gros volume, donc il va vous donner un peu tout, les orbites, les calculs, les bases. Alors bien sûr, les bases, elles ont évolué depuis la sortie de ce livre, hein, mais vous allez sur des sites internet, en tapant base spatiale, et vous aurez toute la liste de toutes celles qui sont en activité.
Donc c'est un beau cadeau d'anniversaire éventuellement pour nos jeunes amis. On redit le titre, Atlas.
Donc l'Atlas de géographie de l'espace, c'est édité chez Belin.
Chez Belin. Voilà. D'autres conseils peut-être de sites à consulter ou peut-être YouTube. Enfin, il y a beaucoup de choses.
Alors vous avez des vidéos sur YouTube. Hein, il y a un site YouTube qui est dédié au spatial. Hein, donc YouTube spatial. Alors là, vous allez être inondé de vidéos. Alors souvent une vidéo, c'est intéressant. Mais je reviens, si vous me le permettez, sur les lancements d'Ariane Espace, parce que souvent il y a des commentaires en français. Et c'est très bien expliqué, très bien commenté sur ce qu'on cherche à faire, ce qu'on veut faire et où on veut aller.
Alors, on peut s'abonner d'ailleurs pour assister en direct même à ces lancements.
Tout à fait. Il y a un site qui s'appelle Vidéo Corner.
Vidéo Corner, on a déjà évoqué effectivement.
On l'a déjà évoqué,
site.
Point TV. Donc là, vous avez tous les lancements Ariane aussi.
Donc voilà, c'est un spectacle. Parfois, c'est la nuit, mais pas toujours. Donc ce sont quand même des spectacles à chaque fois. Et puis une tension, une émotion.
Et pourquoi pas aller à Kourou ?
Alors, c'était ma question. Est-ce qu'il y a la possibilité d'aller en groupe ou tout seul passer quelques jours à Kourou au moment d'un lancement ?
Alors tout à fait, c'est tout à fait possible. Donc bien sûr, il y a le coût du voyage, le coût de l'hébergement. Et je dirais que le plus gros coup, c'est pas celui-ci, c'est que vous allez partir, par exemple, une semaine à Kourou, et pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, météo, défaillance d'un système, le tir sera reporté.
Voilà,
beaucoup de gens ont été frustrés, étant allés à Kourou pour voir un décollage, et puis sont revenus.
Mais les astronomes d'Orion savent ce que c'est que la frustration, puisque le ciel est maître, et les nuages en particulier. Une toute peu, puisqu'on évoque Orion, le groupe Orion, je veux simplement signaler qu'il y a effectivement au sein du groupe Orion un atelier Orion Junior.
Ah oui.
Je dis ça pour nos jeunes amis qui peuvent nous écouter et qui travaillent beaucoup sur la conquête spatiale. Pas simplement, mais ils font beaucoup de choses. Ah, il y a des enfants de 9 ans à 77 ans, mais il y a beaucoup de jeunes qui se... une très bonne ambiance.
Alors souvent, ils sont très intéressés par tout ce qui est spatial, donc ils bénéficient de toute l'activité du spatial à Orion, de construction de maquettes aussi, il y en a qui sont très
voilà, ils sont intervenus à la bibliothèque du Puy récemment.
Exactement,
auprès d'autres enfants.
Donc,
c'est une dynamique tout à fait sympathique. Et puis, bien entendu, pour terminer, le site Orion.
www.orion43.fr, vous avez une page actualité spatiale où on met en ligne donc les derniers lancements. Voilà ce qui nous a paru le plus important parce que, comme on a tout souvent dit, des lancements, il y en a beaucoup, donc il faut faire un choix.
Voilà, merci Jean-Michel, et puis
merci,
au revoir à tous, à une prochaine émission
puis,
sur la conquête spatiale.
À bientôt pour les chemins de l'espace.
Voilà.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.